Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue. L'exercice de la démocratie repose sur une information honnête, responsable et pluraliste. Les valeurs cardinales sur lesquelles se fonde l'exigence démocratique sont le respect scrupuleux des faits et de la vie privée des personnes, le refus de la corruption et de la manipulation des consciences, le souci constant de l'indépendance et de la dignité. C'est écrit dans la charte d'antenne des radios et télévision du Mali, présentée il y a quelques mois par différentes organisations, la Haute Autorité de la Communication, la Maison de la Presse, l'URTEL, la Fondation Twindi et Studio Tamani. Et ce soir, c'est de ce document dont on va parler pour l'expliquer aux responsables des radios, aux responsables des télés, mais également aux auditeurs et téléspectateurs à travers le pays. Nos invités donc sont Maman Hamei Sissé, membre de la Haute Autorité de la Communication, Bandjougou Danté, président de la Maison de la Presse, et Tidiane Togola, directeur exécutif de la Fondation Twindi. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à toutes et à tous.
Le Grand Dialogue.
Je le disais tout de suite, une charte d'antenne des radios et télévisions du Mali est désormais disponible. Alors, Monsieur Sissé, dans quel contexte et pour quelles raisons cette charte a été élaborée?
Merci, Monsieur Touré. Parce que la charte, il faut le reconnaître d'abord que c'est un document inclusif et participatif qui a concerné trois acteurs principaux. L'Union des radios et télévisions libres du Mali, la direction exécutive de Twindi et puis la Haute Autorité de la Communication. Mais elle est partie du fait d'un constat où c'est là où le studio Tamani a tout le mérite. C'était pendant les dernières élections que nous avons eu à couvrir. Et les trois ont travaillé un peu à monitorer la presse pour une bonne conduite dans leur travail de couverture médiatique des élections. Et le studio Tamani, qui avait une charte électorale aussi, tout comme l'URTEL, qui avait les principes éthiques et déontologiques, et la HAC, qui a élaboré un code de conduite avec l'ensemble des fêtières de la profession. Et l'avantage, c'est que le principal agent de monitoring, en dehors du centre de monitoring que la HAC avait, c'était l'URTEL, à travers tout le Mali, dans ses antennes de toutes les régions et de tous les cercles du Mali. Donc, ce qui nous est remonté à l'analyse, au constat, le studio Tamani a relevé pour nous qu'il y a des manquements, notamment par rapport à la tenue de l'antenne même, déjà, et par rapport à certains principes qui sont mal appréciés par les responsables des radios qui faisaient la couverture. Et l'URTEL était de son avis. Bon, et l'URTEL et le studio Tamani ont approché la HAC pour dire comment on peut corriger ça. Et dans ce trip-là, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un processus participatif. Et depuis que les deux ont été d'accord, qu'ils ont approché la HAC, on a vu comment organiser un atelier où toutes les fêtières et les principaux acteurs des médias audiovisuels peuvent se retrouver pour voir comment on peut trouver une solution à ça. Et c'est là que Twindi est rentré dans le jeu aussi, pour nous aider à organiser tous ces processus-là. Donc tout ce processus est dans l'organisation est beaucoup plus le fait de Twindi. Et pour la matérialité, c'est le mérite du studio Tamani, celui qui a pris en charge l'essentiel des rencontres que nous avons, aussi bien au plan financier et tout. L'URTEL était là pour la mobilisation, et la HAC était là beaucoup plus pour accompagner et donner un peu une caution morale et institutionnelle au principe qu'on était en train de faire. Et c'est pour cette charte d'antenne que nous avons aujourd'hui dont vous parlez, c'est le résultat d'un processus, j'allais dire, inclusif et participatif. Et ce processus d'inclusion et de participation a eu son premier épilogue en septembre dernier, où on a validé la charte, les principes de la charte. Et après qu'on ait validé ça à travers les 13 articles, nous sommes passés le 13 février, qui est la journée de la radio, encore une fois, Studio Tamani a attiré notre attention que c'est la meilleure occasion de profiter de cette journée de la radio pour lancer ce texte-là qui concerne fondamentalement l'audiovisuel. Donc c'est pour ça que le 13 février, les trois parties ont signé la charte d'antenne à travers une cérémonie solennelle ici à la Maison de la Presse avec l'URTEL, la HAC et le studio Tamani. Voilà un peu la genèse de ça. Et ce nouveau document de référence, sans être un plus par rapport au code existant déjà, il a été appelé juste pour renforcer le professionnalisme dans la transmission de l'information au niveau des organes audiovisuels, télé et radio. Donc, grosso modo, sur le départ, voilà ce que je peux dire par rapport à la genèse de la charte d'antenne. Peut-être que Togola ou Dante peut me compléter.
Justement, Togola, la question de savoir, est-ce que vous êtes convaincu que cette charte va pouvoir changer quelque chose par rapport à ce qui est dénoncé tout de suite, souligné plutôt par M. Cissé?
Merci beaucoup. Moi, je pense vraiment que ça va être... déjà, c'est une innovation en soi, étant donné que les acteurs qui se sont mis ensemble pour pouvoir développer cette charte, et aussi le caractère très inclusif, parce qu'au moment où ça se développait, c'est quand même l'ensemble des patrons de presse, donc les professionnels de presse auxquels va s'appliquer cette charte étaient présents au moment où ça se décidait. Et également, c'est un document qui vient à un très bon moment, c'est-à-dire que les défis liés même à la pratique et au professionnalisme qu'on rencontre aujourd'hui, et notamment dans un moment où aussi le digital fait est très fort dans la communication. Donc cette charte a tout à fait sa place et nous sommes très très convaincus que ça sera pratique, que ça sera utilisé. Et si on prend par exemple le cas spécifique, le nombre d'organes qui sont membres de l'URTEL, et quand l'URTEL signe, c'est tous ces organes aussi qui sont engagés. Et ce qui était très intéressant, ce n'était pas juste le leadership de l'URTEL qui était présent ce jour-là, il y avait véritablement les membres de l'URTEL qui étaient présents, il y avait même d'autres organes de développement média. Par exemple, Twindy n'est pas un organe de média, mais Twindy est un organe de développement média. Nous, on était là, il y avait d'autres grands acteurs importants sur le sujet qui étaient présents. Donc, ce qui fait que cette charte a énormément de chances d'être appliquée.
Alors, cette charte est composée de 13 points et nous allons les développer tout de suite. On va commencer par le premier point qui indique que les radios et télévisions du Mali prennent conscience qu'elles sont un trait d'union pour les Maliens et les Maliennes. Qu'est-ce qui est voulu dire à travers ce point-là qui est le premier de cette charte Bandiou Danté?
Merci Mahamadou. Quand on dit un trait d'union, c'est ce qui constitue l'unité. Le trait d'union marque l'unité. Et cette unité se caractérise effectivement par le vivre ensemble, la stabilité et le respect des valeurs sociales. Alors, si les radios et les télévisions comprennent qu'ils sont un trait d'union, c'est que ces radios et les télévisions doivent concourir au bien-être des populations par la tolérance, par la compréhension mutuelle. Donc, à ce titre, si les radios et les télévisions comprennent que la stabilité du pays, le vivre ensemble, la cohésion sociale dont nous rêvons tant et ce que nous souhaitons, qu'ils sont un trait d'union, ça veut dire que ce trait d'union ne doit pas disparaître ou que ce trait d'union ne doit pas créer des situations qui peuvent amener les gens à se haïr, les gens à se détester. Donc nous avons un rôle de rassemblement et ce rassemblement doit être de nature à préserver l'unité nationale.
C'est-à-dire que les médias, les radios et télévisions doivent jouer un rôle de médiation, par exemple, entre les gouvernants et les gouvernés, entre des conflits, des partis en conflit notamment.
Tout à fait. Mais en tout cas, ils doivent, dans un contexte démocratique, favoriser les équilibres sociaux.
Est-ce que cela est le cas en ce moment, M. Cissé?
C'est pas totalement le cas, mais c'est en train d'être le cas et c'est à ça que la charte d'antenne va travailler. La charte d'antenne, elle tient à faire en sorte que les radios et les télévisions soient davantage un lien social entre les Maliens et les communautés. Vous savez, et c'est ça la force de l'URTEL dans ça, parce que c'est les radios locales qui peuvent être ce socle-là de lien social entre les communautés. Et vous savez tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a fait la charte d'antenne même, pour mieux répondre encore à cette réalité. Déjà, les radios locales, elles sont le lien entre les différentes communautés, entre les Maliens au plan local. Mais on veut qu'au plan national aussi, ce lien social soit une réalité. Et je crois que c'est en bonne voie. Les médias sont dans leur rôle, comme vous dites, de médiation et de lien social entre les communautés et entre les Maliens et les institutions maliennes. Je crois qu'on est là-dessus. Et c'est à ça qu'on travaille à travers la charte d'antenne.
Togola, avez-vous l'impression aujourd'hui que les médias radio et télévision donnent plus la parole aux personnalités politiques, aux autorités qu'aux citoyens lambda? Est-ce que ce trait d'union-là est bien joué?
Moi, je pense que les radios le font, et les télévisions aussi, mais je pense que l'idée majeure, c'est surtout au niveau des radios, parce que quoi qu'on dise, c'est la radio qui se trouve jusqu'au niveau le plus reculé, et pratiquement, voilà, c'est le média de proximité. Et quand on regarde très bien au cours des derniers événements, même si c'est très malheureux, il faut reconnaître quand même qu'on a constaté, quand on regarde les différentes chaînes de télévision, que tout le monde avait la parole, c'est-à-dire qu'on avait l'opposition, on avait la mouvance, on avait les organisations de la société civile. Aujourd'hui, il faut reconnaître que de plus en plus cet effort se fait. Maintenant, c'est le fait de donner la parole à tout le monde est une très bonne chose. Mais faire de telle sorte que ça puisse, parce que pour moi, ce premier point va au-delà du simple fait de donner la parole, mais c'est de donner la parole de sorte à garantir la cohésion sociale, de sorte à rendre, comme Bandjougou expliquait tout à l'heure, de sorte à équilibrer, n'est-ce pas, les liens sociaux que les gens ont. Quoi.
C'est là qu'on parle de l'inclusivité.
Exactement.
Alors le deuxième point qui indique que les radios et télévisions du Mali respectent les règles déontologiques et éthiques qui régissent la profession de journaliste. Bandjougou.
Oui, tout à fait. Dans n'importe quel métier, il y a deux principes de base. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc je pense que si on a une charte d'antenne pour les radios et la télévision, cette charte doit contribuer à renforcer les fondamentaux de la pratique du métier de journalisme. Il s'agit effectivement du respect de tout ce qui est éthique et de tout ce qui est déontologie. Donc la charte vient effectivement appuyer ces principes de base.
Rester notamment professionnel, éviter les dérapages.
Éviter de diffuser des informations non vérifiées, éviter de s'attaquer à la vie privée des gens, et faire des injures, appeler à la haine, faire un travail professionnel, impartial et indépendant.
Est-ce que ces dérapages qui sont dénoncés sur certains médias souvent ne constituent pas un danger pour le pays, M. Cissé?
C'est un peu ça. C'est à ça que la charte veut pallier. La charte veut pallier ce problème de dérapage, des trucs sans pour autant passer à des sanctions. La charte, elle est pédagogique. Parce qu'au-delà des principes éthiques et déontologiques, la charte va dans des détails. Elle va dire, donnez la parole aux minorités. Permettez aux sans-voix de parler. Comme vous dites, ne donnez pas la parole aux seules institutions. Vous êtes au plan local, dites aux gens, et privilégiez ceux qui sont pour la cohésion sociale, ceux qui prônent la paix, ainsi de suite. Donc, la charte d'antenne rentre dans des détails que le code de déontologie, d'une manière générale, ne traite pas. Donc, c'est ça l'avantage des 13 points-là. Les 13 points, c'est vraiment pour renforcer les capacités des gens des radios et des télévisions qui, au quotidien, travaillent sur cette matière. Vous avez vu que ça ne concerne que les radios et les télévisions, pas directement la presse écrite. Parce que eux, les gens de la radio et de la télévision, aujourd'hui, c'est des éléments centraux de la cohésion sociale qu'on cherche, de la paix vers laquelle on va. Aujourd'hui, toute politique nationale de communication doit aller vers ces médias-là d'abord, pour que ceci soit renforcé. Donc je suis d'accord avec vous que ça peut pallier ces dérapages-là. Et ces dérapages-là, plutôt que de les sanctionner toujours, ou par la HAC, ou par Dante vient de le dire, avant qu'on ne commence que la carte de presse, il faut que la HAC prenne toutes ses responsabilités. C'est tout ça qui fait que, de plus en plus, la charte d'antenne, on va se reposer sur elle pour montrer qu'on est dans une logique de co-régulation. Aujourd'hui, ce n'est plus la HAC seulement qui va réguler. D'abord, la charte d'antenne, c'est de l'autorégulation. C'est que chaque rédaction prend ça en charge. L'URTEL la prend en charge, donc c'est l'autorégulation. Mais c'est de la co-régulation avec les trois acteurs qui sont ensemble. Les trois signataires co-régulent ensemble cette charte d'antenne-là pour montrer son application. Et comme on a dit, on rentrera dans les détails avec le comité scientifique qui va suivre, qui va évaluer et qui va noter les gens ou qui va sanctionner les gens ou par des prix ou par le fait qu'on ne te donne pas la carte de presse, ou par le fait qu'on te retire ton autorisation au niveau de la HAC, ou par le fait que tu ne vas plus être membre de l'URTEL, ainsi de suite. Donc, tu vois, il y a une co-régulation et des sanctions subséquentes qui sont là-dessus, qui font que la charte a sa spécificité et son référentiel à lui, qui va au-delà des codes classiques que nous avons connus jusque-là. Et c'est ça son mérite.
Et le troisième point qui indique que les radios et télévisions du Mali s'interdisent toute forme d'exclusion et tiennent compte des minorités. Voilà. Elles s'abstiennent de diffuser des contenus visant à discriminer la race, le sexe, l'âge, la religion, voilà, l'appartenance ethnique, le handicap, exactement, l'apparence physique ou le statut social. Alors, Tidiane Togola, votre organisation s'est spécialisée notamment dans la promotion du genre. Est-ce que vous pensez que la dimension genre aujourd'hui est suffisamment prise en compte par les radios et télévisions du Mali ?
Sur la dimension spécifique genre, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, parce que quand on regarde la prise en compte du genre, donc quand je parle genre vraiment en termes d'hommes-femmes, il faut reconnaître qu'il y a énormément d'efforts à faire. Maintenant, est-ce qu'on donne la parole ? On peut aussi dire qu'il y a beaucoup d'organes qui, de plus en plus, font des efforts. Hein. Il y a énormément d'efforts qui se font, que ce soit en termes de prise de parole, donc de temps d'antenne accordé aux femmes, ou en termes même de donner des responsabilités dans les postes de décision, dans les organes de médias. Il y a énormément d'efforts qui se font. Mais effectivement, il y a de plus en plus d'efforts qu'il faudrait réussir à faire. Et moi, je pense que la charte, en précisant ça, ça permettra justement d'aller... de permettre aux organes de médias non seulement de les rappeler qu'ils ont une responsabilité sur les thématiques, c'est-à-dire sur le fait qu'ils ne doivent pas exclure, quelle que soit la forme d'exclusion, et surtout sur le fait qu'ils doivent aussi faire en sorte que les radios représentent l'image de l'environnement où ils sont. Voilà.
Quand on parle donc d'informations indépendantes, impartiales, équilibrées, tout simplement professionnelles, est-ce que c'est de ça dont on parle, ne pas discriminer qui que ce soit dans le traitement d'une information à travers les médias ?
Mais cela dépend, c'est la crédibilité même du média en dépend, et le respect du cahier des charges qui permet la création de la radio, de la télévision, l'exige. Je crois que même en dehors des médias, les valeurs ici qui sont défendues ou des choses qui sont condamnées ne doivent pas être dites entre deux personnes, à plus forte raison que de l'amplifier à partir d'un support qui peut toucher le plus grand nombre. Donc je crois que si la charte a mis l'accent sur le respect de certaines valeurs-là, ce n'est que la bonne conduite qui est demandée. Par exemple, sur une antenne de radio ou de télévision, on ne peut pas venir juger quelqu'un sur la base de son appartenance raciale, de son appartenance ethnique ou de son appartenance religieuse. Parce que cela peut heurter les sensibilités, ça peut contribuer à même discréditer totalement les médias en question.
Est-ce qu'on ne va pas vers ça ? Est-ce que ce n'est pas la situation qu'on vit aujourd'hui au Mali ?
Nous sommes au regret de constater que dans un pays où l'immense majorité n'a pas eu un niveau d'instruction assez élevé, l'on a souvent tendance à aimer et à positiver le négatif. Bon, je crois qu'il y a des contenus qui parfois sont des contenus condamnables, mais malheureusement, on essaye aujourd'hui de mettre à l'avant ce qui doit être condamné. Donc, je crois que ce qui est important, c'est cette prise de conscience collective que les gens et les autres doivent avoir pour dire que tout ce que nous élaborons comme document, tout ce que nous exigeons de nous et des autres, ne sont pas des valeurs extérieures. C'est des valeurs qui sont déjà ancrées dans nos sociétés. Par exemple, la préservation de la dignité humaine, la préservation de la vie privée des gens. Et je crois qu'on n'a pas attendu à ce que cela soit défendu par des organisations internationales pour les intégrer. Donc il y a effectivement une question d'éducation qui sous-tend tout ça. Donc maintenant, si on accepte être un homme de médias, et surtout un média aussi puissant que la radio de proximité, qui s'adresse directement aux populations et surtout dans leur langue. Et ce qui est dit est compris par tout le monde. Il va de soi que ces principes-là, qui sont des principes essentiels, soient protégés, soient défendus.
Et le quatrième point, qui n'est pas totalement différent du troisième, qui indique que les radios et télévisions du Mali font particulièrement attention et évitent dans les contenus des programmes et interventions à l'antenne toute stigmatisation basée sur le genre, l'ethnie, la religion et l'appartenance politique. Alors, sur ce troisième et ce quatrième point, ce qui est dénoncé, Monsieur Cissé, généralement, qu'est-ce qui pousse les médias à aller vers cela? Est-ce que c'est le fait de ne pas connaître ce qui régit leur profession quand il s'agit des journalistes, ou est-ce que c'est juste le laisser-aller qui conduit à ces différentes discriminations qui sont dénoncées?
Moi, j'allais dire sous le contrôle des autres que c'est les deux. C'est non seulement la tendance à aller vers ça, mais des fois le fait de ne pas connaître les principes qui régissent la profession. Et c'est tout ça qui a été constaté et qui a été à la base du lancement de la charte d'antenne, et dans des conditions plus spécifiques. Parce que dans les codes, d'une manière générale, vous voyez qu'on ne rentre pas dans tous ces détails-là. Vous voyez que l'article 3 et l'article 4 sont les mêmes, mais un peu plus détaillés. Donc c'est pour dire seulement que ça insiste sur le fait de penser toujours à l'inclusivité. On ne peut pas aller à une cohésion sociale sans inclusivité. Notre démarche même a été inclusive, comme vous l'avez dit, Togola. Et puis l'autre, c'est qu'on a réuni tout le monde, tous les acteurs du secteur de la radio et de la télévision étaient autour de l'élaboration de ce texte-là. Et il y a eu trois étapes là-dedans. Une première étape où les gens sont venus, ils ont fait des propositions, ainsi de suite, et tout, et tout. Une deuxième étape où on est parti mettre en forme les propositions qui ont été faites, on est venu les mettre en cohérence, faire une structuration bien faite là-dessus, et valider le texte. Et quand on a validé le texte, on a cherché aussi une date officielle, une date solennelle, une date symbolique, pour venir signer encore, devant tout le monde et s'engager. Donc c'est pour dire que la charte d'antenne, ce n'est pas un code de plus, mais c'est un code spécifique. C'est un référentiel particulier. C'est une nouvelle boussole que l'URTEL, le studio Tamani, la HAC, avec l'appui de leurs partenaires de développement médias, ont voulu mettre en place pour que directement on puisse prendre les choses en main. Ça veut dire que surtout au niveau local. Vous savez que ce n'est pas pour jeter la pierre à chacun. Au niveau des radios, des fois, nous avons des animateurs qui n'ont pas le niveau de lecture du code. Et c'est pour ça que même la charte, nous avons dit, je parle sous le contrôle de Dante, que nous allons le vulgariser dans les différentes langues pour que les gens puissent mieux se l'approprier.
Après aussi, ce débat en français, les auditeurs l'entendront.
Voilà, aussi bien pour les radios que pour les trucs, et aussi bien les téléspectateurs, les auditeurs, que les animateurs doivent comprendre la charte d'antenne, en quoi ça consiste. Tout ça, c'est pour qu'on continue à être le lien social, le trait d'union, comme vous avez parlé dès au départ, le lien social entre les Maliens et les différentes communautés du Mali. Parce que c'est à ce problème-là qu'on est confronté aujourd'hui. Et c'est ce problème-là qui nous incite à aller vers l'inclusivité, à donner la parole aux gens qui n'ont pas l'habitude de parler, à faire parler les minorités, à faire en sorte qu'une religion ne soit pas privilégiée par rapport à une autre. Chaque religion a sa réalité, ainsi de suite et tout. Donc je me dis que franchement, on est dans la bonne logique. Maintenant, comme vous dites, tout est à la pratique et on est en train de travailler à la pratique dans les tout prochains jours. Le comité scientifique va aller encore plus en profondeur par rapport au principe de la mise en œuvre de ça. Je parle sous le contrôle de mes deux collègues.
Alors, on demande à ces radios et télévisions de faire attention et d'éviter tout ce qui vient d'être cité pour qu'elles puissent les faire. Est-ce que les responsables de ces radios et télévisions et les agents doivent être également formés à mieux connaître la profession et les textes qui régissent cette profession?
Moi, je pense que c'est extrêmement important de les former, et vraiment sans forme d'injure, d'être éduqué aussi à ces questions-là. Parce que quelqu'un qui ne les comprend pas assez ne pourra pas les garantir. Et un responsable de médias garantir ses valeurs, ses principes, ça suppose qu'il maîtrise lui-même, et ça suppose aussi qu'il a une certaine capacité à le faire, à faire adhérer ses collègues journalistes, animateurs, à ces principes-là, et surtout à avoir aussi la capacité de sanctionner au moment où il faut sanctionner. Parce que le gros défi souvent, c'est quoi? C'est que quand on est responsable d'organes des médias, certains organes, malheureusement, veulent vraiment faire du sensationnel, ils veulent attirer de l'audience. Et souvent, à vouloir avoir trop d'audience, on laisse certains dérapages, on dit « ce n'est pas grave ». Et de « ce n'est pas grave » à « ce n'est pas grave », ça devient ingérable. Quoi. Voilà.
Okay. Et le cinquième point indique « les radios et télévisions du Mali s'interdisent de relayer sur les antennes les rumeurs et les informations non vérifiées », qu'on appelle en anglais le « fact-checking », les fausses informations. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui un des plus grands dangers auxquels les médias doivent faire face ?
C'est un sujet essentiel. La désinformation, la recherche du sensationnel, et, bref, les mensonges. Et il est quand même important, comme il a toujours été dit, avant de diffuser une information, de procéder à la vérification pour éviter de causer l'irréparable. Donc, cette charte invite seulement rappelle seulement les règles de base du journalisme. Parce qu'une information qui doit être diffusée doit être une information vérifiée. Quelle que soit la provenance de l'information, celui qui donne l'information donne cette information pour un intérêt bien déterminé. Maintenant, si on sait très bien qu'on veut donner cette information sans écouter l'autre, sans procéder à des vérifications, et qu'après l'avoir diffusée, l'auditeur même qui est déjà là peut se rendre compte que la radio a menti, bon, entre guillemets, ça ne contribue pas à donner aux médias la bonne image souhaitée. Or, le média doit être un exemple. Il doit être le plus irréprochable que possible. Donc, mais dès l'instant que le discrédit s'installe, il perd carrément son sens, il perd carrément sa mission. Donc, je pense que l'information qui doit être donnée doit être une information vérifiée et même vérifiée à nouveau.
Et c'est une règle de base du journalisme, vérifier toute information qui doit être donnée. Mais en lien avec les fact-checking, il y a également d'autres outils à utiliser pour encore mieux vérifier ces informations. Tiens Togola, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les radios, les télévisions du Mali maîtrisent bien ces outils-là qui permettent de bien vérifier ?
Je pense malheureusement que les praticiens n'ont pas suffisamment de maîtrise sur ces outils, pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, mais c'est parce qu'ils sont dans un nouvel environnement. C'est-à-dire que l'Internet vient avec des nouveaux défis et il y a peu d'organes de médias qui ont même une bonne connexion Internet, à plus forte raison de s'entraîner à connaître certains de ces outils. Et du coup, le plus gros souci auquel on se trouve aujourd'hui, c'est le fait que c'est Internet lui-même qui est devenu la première source d'information pour certains organes de médias qui, au lieu d'être sur le terrain, essaient de s'alimenter via Internet. Et donc, la première information qu'ils trouvent, ils n'ont pas la capacité nécessaire pour pouvoir vérifier, maîtriser cette information et le diffuser. Donc ça, c'est malheureusement des contraintes face auxquelles il faut...
L'aspect auquel les médias doivent se former.
Il faut absolument qu'ils se forment à ça parce que s'ils veulent faire de la vérification des faits, ils ne pourront pas le faire en faisant fi de ce qui se fait sur Internet. Or, le plus gros boulot, en tout cas la plus grosse source d'information aujourd'hui qui est accessible sans payer trop cher, c'est vraiment l'Internet.
Monsieur Cissé veut réagir.
Sur la question, je crois que, comme l'a dit Dante, c'est le principe d'abord qu'il faut accepter. C'est qu'un journaliste, par essence, le code de déontologie te dit ça, ton éthique te dit ça, tu ne dois publier aucune information dont tu n'es pas sûr. Si tu ne peux pas la vérifier, tu ne la publies pas.
À l'ère du copier-coller, est-ce qu'on peut s'attendre à ça?
Oui, mais on est...
Maintenant, beaucoup de médias font du copier-coller.
C'est à ça qu'on travaille. Là où je suis d'accord avec Togola, c'est quand il dit, sans faire l'injure aux gens, il faut que les gens soient formés à... Tu sais que, comme dit l'autre, l'éducateur doit être éduqué, le sensibilisateur doit être sensibilisé et le formateur doit être formé. Et ici... Eux-mêmes, des fois, ils ont des modules en tant que développeurs de médias. Ils ont des modules avec lesquels ils disent formation des formateurs. C'est-à-dire que les gens qui forment même ont besoin d'être formés.
Il faut les former à ça.
Et dans les fact-checking, généralement, ce à quoi, et je crois que les Togolais avaient fait une formation dans ce sens-là, c'est comment on peut, les médias peuvent déconstruire les fact-checking, les désinformations qu'ils font. C'est-à-dire que eux, au lieu de dire seulement le gars a menti, et passez moi l'expression, j'ai dit le gars, au lieu de dire que cette information est fausse, c'est de donner la vraie information. Et ça a besoin d'une formation. Mais en revanche, dire que parce que je ne peux pas vérifier, je n'ai pas le choix, je vais publier, non, ça ne marche pas. Ça, c'est très bon à savoir. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux nous piègent parce que c'est pour ça qu'il faut former les gens aussi, même les citoyens, à l'éducation aux médias. L'éducation aux médias devient de plus en plus une réalité, comme il dit avec l'Internet. Il y a un océan de communication dans lequel aussi bien les animateurs que les citoyens de manière générale doivent pouvoir nager. Sinon, dans cette mer-là, tu vas être noyé tous les jours. Donc, c'est à nous de savoir. Mais comme Dante a dit, la vérification, elle est essentielle. Toute information que tu publies, il faut le suivre. Bon, des fois, comme l'a dit Tito, on croit que l'information qui est sur le net, si on m'envoie un WhatsApp ou un truc, Or, même les WhatsApp, en général, quand on les envoie, je parle sous votre contrôle, les gens qui sont responsables disent « information à vérifier ». Je t'envoie un WhatsApp, mais je dis « à vérifier ». Ça veut dire que je l'ai eu d'une ou deux personnes que je crois crédibles, mais moi, ça me surprend. Donc, il faut m'aider à vérifier. C'est tout ça que ça veut dire. Et je crois que de plus en plus dans les rédactions, il faut avoir une structure qui est dédié à ça, à la vérification des informations.
Et je continue avec vous, avec le sixième point qui indique que le respect de la vie privée est un principe intangible et doit intégrer la protection particulière des enfants pour les radios et télévisions du Mali. Que veut-on dire ?
Oui, là, on veut dire, surtout pour les enfants et les jeunes, là, il y a même des dispositions au niveau de la convention, je parle sous le contrôle de Dante, encore une fois, la convention qu'il signe, ils disent que toutes les émissions ou même quand c'est des télévisions qu'on rediffuse, s'ils font des émissions qui font atteinte au truc des jeunes, il faut indiquer aux parents que les enfants de moins de 10 ans, les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas suivre ces émissions. Maintenant, la vie privée, elle est sacrée. On ne peut pas y choisir. Mais l'autre chose, comme Dante le soutient dans son thème de cette année pour la journée du 3 mai, et l'UNESCO aussi, qui demande de faire la promotion de l'information comme un bien public. L'information d'intérêt général, là, il y a des fois des recoupements entre l'intérêt général et la vie privée. Là aussi, c'est au journaliste de prendre la hauteur. Celui dont c'est la vie privée dira toujours qu'il a fait atteinte à sa vie privée. Mais quand c'est dans l'intérêt général, le journaliste est obligé d'en parler pour permettre aux citoyens de pouvoir, en toute connaissance de cause, de décider si ce ton public est bien pour eux ou s'il n'est pas bien pour eux. Parce que ça, c'est important aussi. Donc, c'est à lui de faire l'équilibre. Et c'est pour ça que les instances de régulation sont bonnes à ce niveau.
Est-ce qu'ils y arrivent tout le temps?
Non, ils n'arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Dans les deux sens, ils n'y arrivent
pas. Donc, besoin de formation sur ça
aussi. Besoin de formation encore sur ça. Mais c'est très important. Et c'est quasiment le thème de cette année sur lequel j'ai dit à Dante que c'est un thème assez riche. Et assez piégeant aussi. Donc, on en parlera le lundi, Inch'Allah.
Espérons que les médias maliens pourront éviter ce piège. Alors, septième point, les radios et télévisions favorisent la diversité et l'expression plurielle au Mali. Dante.
Et la diversité et l'expression plurielle participent de la tolérance. Sans cette diversité et sans ces expressions plurielles, il n'y a pas de démocratie. Donc, je pense que les radios tirent leur existence d'un contexte démocratique. Donc, naturellement, ils ne peuvent que défendre ces valeurs démocratique. Et les premières valeurs démocratiques, c'est d'abord la diversité des opinions et surtout aussi la pluralité. Donc je crois que
Les médias, les hommes de médias arrivent toujours à gérer cette situation, les sentiments personnels, les tensions entre les différentes personnes qui se retrouvent souvent dans les programmes qu'on sent même.
Il faut faire le distinguo entre ce qu'on désire et ce qui doit être. Ce qui doit être, voilà, c'est ce qui est dégagé. Donc maintenant, les faits qu'ils n'arrivent pas à le faire, ceux-là qui ne le font pas, sont effectivement en délit. Donc je crois que
ces principes... Ils doivent être sanctionnés.
Bon, mais ils doivent revoir leur copie. La sanction, la meilleure sanction, c'est lorsque les pères, P-A-I-R-S, arrive quand même à interpeller quelqu'un pour lui dire ce que tu fais n'est pas en... Parce que nous sommes dans un monde de liberté où il faut faire énormément attention entre la frontière, entre la dictature et la liberté, elle est souvent très réduite.
Mais est-ce que les hommes de médias, surtout les jeunes aujourd'hui, aiment se faire critiquer, être appelés pour leur dire,
mais
par exemple,
nous sommes dans un monde de liberté, on ne peut pas te donner la liberté tous azimuts et que tu n'acceptes pas les préalables de la liberté. Les préalables, c'est l'appréciation aussi des autres par rapport à ce qui s'est fait, qui est aussi une liberté. Donc je pense que il faut que les gens acceptent d'être critiqués. Si vous acceptez critiquer, accepter aussi être critiqué. Et c'est en cela que la vérité va jaillir. Donc je crois que expression plurielle, il n'y a pas de démocratie sans pluralité.
Alors, le huitième point, je pense qu'on va sauter là-dessus, puisqu'on a déjà échangé sur ce qui consiste en trait d'union pour les Maliens et les Maliennes. Et le huitième point indique tout simplement avec précision que l'agent de la radio ou de la télévision à l'antenne prend conscience qu'il est en trait d'union pour les Maliens et les Maliennes. Alors, le neuvième point indique que dans toutes ses interventions au micro, l'agent de la radio ou de la télévision est conscient qu'il s'adresse à tout le Mali. Tiens Togola.
C'est très clair. Hein. Quand on est derrière un micro, on a l'impression d'être seul. Mais la vérité est que de l'autre côté de l'antenne, c'est des milliers de personnes qui potentiellement écoutent. Et aujourd'hui, cela est d'autant plus amplifié que les radios émettent aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, il faudrait savoir qu'en parlant de cette façon, on s'adresse à tous les Maliens et à toutes les Maliennes, et que ces Maliens soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Et dans ce sens, il faut véritablement contrôler ses propos. Il faudrait parler de manière vraiment professionnelle, comme ça a été tout le temps dit dans la charte.
Monsieur Cissé, est-ce que souvent les hommes de radio ne pensent-ils pas être plus intelligents, mieux connaître les choses dont ils parlent que leurs auditeurs? Souvent, dans certaines émissions, est-ce que ce n'est pas l'impression qu'on a?
Non, c'est même la vérité. Je parle sous le contrôle du président de l'URSSEL, même s'il a beaucoup de casquettes maintenant. Mais c'est la vérité. Ça nous arrive à nous tous. Ce n'est pas les hommes de radio, les hommes de médias d'une manière générale. On croit que c'est nous les grands analystes, c'est nous qui comprenons tout, rapport aux autres et tout. Mais c'est un peu notre profession même qui fait ça. Mais par rapport à ce que vous avez dit, le plus important seulement, c'est que l'homme de médias, il doit être de la radio et tout, qu'il soit à la radio, la télé ou la presse écrite, il doit être humble. Et il doit accepter la critique. Et il doit savoir qu'il est perfectible. Et il doit tenir compte, comme vous dites, il faut tenir compte de la diversité et de la pluralité, comme il l'a dit, et éviter d'être manipulé. À 80% des fois, on est manipulé. On est victime beaucoup plus de manipulation que d'intentions strictement partisanes. Donc il faut qu'on fasse attention à tout ça. Et c'est tout ça qui a été constaté aux élections dernières, pour lesquelles l'URSSEL a plaidé auprès du studio Tamani et de la HAC. Plutôt que de prendre des sanctions seulement, il a appelé les gens, parce que le monitoring que nous faisons, c'est un peu un monitoring citoyen ces derniers temps. Tito le connaît, lui aussi il a vécu avec nous et avec le studio Tamani. Toute la journée électorale, l'URSSEL a été sur les pieds. Twindy, à travers ses réseaux et ses observateurs, étaient sur les pieds. Donc on corrige au fur et à mesure. Quand on sent des dérapages, on dit « Ah, tu as déconné. » Ça, là, il faut dire à tes gens, à l'antenne, de ne plus dire ça, d'arrêter ça et tout. Vous pouvez même présenter des excuses. Vous pouvez dire que « Ah, je me suis trompé sur ça, sur ça, sur ça. » C'est citoyen. Mais après, c'est comme ça, on a corrigé sans faire des sanctions directes. Mais après, quand on s'est réunis, c'est ça, le système participatif et inclusif de la chose, on a dit, face à ces dérapages qu'on a constatés, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit, plutôt que de sanctionner, faisons de la pédagogie d'abord. Élaborons une charte d'antenne qui attire l'attention des uns et des autres sur ça. Et disons-leur désormais, respectez au moins cette charte. Si vous ne connaissez pas les principes généraux de notre constat, voilà les éléments sur lesquels on va insister et on va ancrer notre action. Donc, allez-y dans ce sens-là. Ça va vous éviter d'être manipulé, ça va vous éviter d'être partisan, que ce soit pendant les élections ou en temps normal, de journalistes, où l'homme de radio doit prendre de la hauteur. Et il doit appartenir à tous les Maliens ou à toutes les populations de sa communauté. C'est là qu'il est le lien social entre les Maliens et entre les communautés et entre nous et les institutions.
Et ça résume un peu le dixième point qui indique que l'agent de la radio ou de la télévision prend conscience de la responsabilité particulière qui est la sienne à l'antenne et évite par ses maladresses de mettre en péril la cohésion sociale et l'unité nationale du Mali. Il favorise en tant qu'éducateur et médiateur une culture de paix et de cohésion sociale dans ses interventions. Mais Bandiougou Danté, dans un monde où beaucoup d'agents de médias aujourd'hui font face à une situation qui est dénoncée de part et d'autre, le non-paiement de leur salaire notamment, la mauvaise condition, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces hommes de médias soient professionnels, ne vivent pas du terrain, comme on le dit?
La précarité ne doit pas justifier les désordres. Et je pense que on n'a pas à dire que les conditions de vie ne sont pas bonnes et qu'en retour, il faut massacrer. Et ce n'est pas seulement du côté de la presse qu'il y a la précarité. Dans tous les secteurs d'un pays en crise comme le nôtre, la précarité se rencontre un peu partout. Mais nul n'a le droit de justifier ces mauvaises pratiques par une pauvreté. Donc je crois qu'il y a des règles à respecter et lesquelles règles font partie de l'engagement que vous avez pris pour servir. Et nous avons, comme je l'ai dit, des valeurs, notamment le respect de la parole donnée, le respect des engagements pris. Quand on vient à la radio, bien qu'il y a la légèreté, bien que nous sommes dans une société de l'oralité où l'écrit fait souvent défaut entre les gens dans leurs rapports, mais en venant à la radio, personne ne dit clairement, sauf qu'il ne soit en mission commandée du promoteur de la radio, je viens à la radio pour faire ceci, pour faire cela.
Quand il s'est parlé de manipulation, est-ce que certains agents de ces radios ou télévisions ne sont pas en mission commandée par des hommes politiques souvent?
Les manipulateurs peuvent manipuler alors que celui qui est manipulé ne sait même pas qu'il est manipulé. Ça, c'est un des premiers aspects. Et maintenant, ceux qui se mettent en mission commandée relèvent de ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Parce qu'ils ne rendent pas service à eux-mêmes, ils ne rendent pas service à ceux qui les manipulent, ils ne rendent pas service à leurs médias, parce que finalement, ils finiront par discréditer les médias.
Est-ce que les responsables des médias doivent être également poussés à mettre leurs agents dans les conditions?
Si les responsables des médias doivent penser à l'intérêt de leurs travailleurs, et les travailleurs également doivent penser à l'intérêt de son média, dans la mesure où c'est des relations d'interdépendance qui existent entre les travailleurs et les médias.
En mettant le citoyen lambda au centre de l'information, comme vous le disiez. 11e point, l'agent de la radio ou de la télévision veille à privilégier dans le traitement des situations de crise et de conflit ceux qui prêchent la conciliation et non les passions ethnocentristes, religieuses ou politiques. Tidjani Togola.
Je pense que ça parle de lui-même. Quand on prend le contexte malien aujourd'hui, où nous sommes dans une situation de crise qui est déjà suffisamment compliquée, moi je pense que le professionnel de radio ou de la télévision ou n'importe quel professionnel des médias devrait privilégier des discours qui apaisent, des discours qui permettent de concilier les positions et non de tenir des propos qui sont souvent violents ou qui aggravent. Ou des suppositions ou des rumeurs. Ça, c'est des choses qui doivent être évitées à tout prix par les professionnels.
Il nous reste juste deux minutes et donc on a déjà répondu à évoquer les deux autres points qui restent, le 12e point et le 13e point. Le 12e qui indique que dans l'exercice de la liberté d'expression, l'agent de la radio ou de la télévision s'impose les limites de la décence, et le 13e point qui indique qu'il n'est pas un agent de propagande et de publicité et évite de céder à la manipulation de l'information. Alors monsieur Cissé, le Mali va faire face à un contexte encore particulier, notamment à travers l'organisation de 7 élections qui sont prévues selon le chronogramme électoral du gouvernement en 6 mois, à partir de octobre jusqu'en mars 2022. Alors, quel appel avez-vous à lancer particulièrement aux responsables et aux agents de radio et de télévision?
L'appel qu'on a à lancer, c'est un peu l'appel qui est lancé aux agents de radio et de télévision dans le préambule de la charte déjà. Ce que les journalistes soient encore plus responsables, qu'il soit davantage un lien social entre les Maliens et entre les communautés maliennes, qu'on vise toujours l'inclusivité, qu'on n'essaye pas d'exclure les gens, qu'on soit plus inclusif, et que nous tenions compte le maximum possible des minorités à nos antennes, d'une manière à satisfaire la soif d'identité que certains Maliens ont, qui se croient exclus, donner une voix à ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, ce qu'il y en a encore, c'est-à-dire que les radios de l'intérieur, les radios
merci,
de proximité.
Le temps nous fait défaut. À M. Togola, voilà. Est-ce que les fêtières des médias, est-ce que les organisations de développement des médias doivent profiter de ce moment pour accompagner ces médias-là à éviter des dérapages lors de ces futures élections à peu près?
Absolument, c'est fondamental et nous les lançons un vibrant appel pour qu'ils accompagnent et qu'ils fassent en sorte que les principes qui sont édictés dans cette charte puissent être appliqués au sein de leurs organes de presse. Et à mon sens, cela va donner énormément de chances à avoir des élections crédibles et paisibles.
Est-ce que la maison de la presse va s'atteler à ça?
Nous souhaitons quand même qu'il y ait un cadre de concertation permettant à tous les acteurs de se retrouver. Malheureusement, dans ce pays, parfois, les acteurs sont ignorés ou mis de côté. Sinon, je suis convaincu que si nous nous apprêtons à organiser des grands événements de ce genre, les organisations de défense des médias, les acteurs de la Haute Autorité de la Communication, les professionnels, si nous nous mettons ensemble et qu'on sache réellement qu'on qu'on ne fait pas de parallélisme, je suis convaincu que nous allons nous mettre d'accord sur des choses qui peuvent être mises en pratique.
Merci à nos invités, Maman Amey Cissé de la Haute Autorité de la Communication, Tiani Togola de la Fondation Twindi et Bandjougou Danté, président de la Maison de la Presse. À la régie vidéo et audio, Nouhoum Djiré et Seydoun Daou, je rappelle que ce débat a eu pour objectif d'expliquer le contenu de la charte d'antenne et des télévisions du Mali. Je suis Mouhamadou Touré, on se retrouve demain pour ce même débat en langue nationale Bamanankan. Merci à toutes et à tous.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.